Sexploration sur RCN. Lucille Bach.
On parle beaucoup de l'IVG comme d'un acte médical, mais après. Quand le corps a vécu, que le cœur cogite et que le désir s'étiole, comment retrouver confiance, plaisir et intimité? Bienvenue en Sexploration, le podcast qui t'aide à reprendre le contrôle sur ta sexualité. Salut Chloé.
Salut Lucille.
On va focus sur la reconstruction, les émotions complexes, la réappropriation du désir, mais aussi les normes sociales, la liberté d'avorter sans devoir tout justifier. Chloé, dis-moi, toi en tant que sexologue, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu déjà comment une IVG peut impacter la libido à court voire moyen terme?
Simplement, c'est quelque chose qui impacte forcément l'émotion de la femme et aussi du conjoint s'il y en a un. C'est-à-dire que l'IVG, c'est déjà quelque chose qui est vécu de manière très très lourde et négative par la personne. Alors quand je dis très lourde et négative, bien évidemment pour certaines c'est une liberté. Et c'est pas parce que c'est une liberté que c'est pas un poids. Dans
Exactement.
Le sens où on a ce droit en France à l'avortement. Mais c'est pas pour autant qu'on y va avec le sourire et avec un air enchanteur. Bien au contraire, c'est des douleurs, c'est un parcours qui est très lourd aussi. Et surtout comme tu le disais, sur l'après également. Comment finalement retrouver une sexualité quand on a peur de retomber enceinte, quand on a peur des douleurs et que ce corps justement a été médicalisé?
Oui, tout à fait. Il y a des impacts physiques comme hormonaux. Est-ce que tu peux déjà peut-être nous débriefer là-dessus parce qu'on a tendance à les sous-estimer après une IVG?
En fait, on va avoir déjà tout le corps qui va réagir comme un début de grossesse. Donc tout va se mettre en place, les hormones vont se mettre en place, etc. Donc forcément, quand on fait une interruption, on interrompt la grossesse, mais le temps que le corps retrouve, entre guillemets, sa norme au niveau des hormones, etc., enfin que le champ finalement revient à la normale d'une personne non enceinte, ça prend du temps, c'est pas en deux jours que ça se fait. Il y a des saignements qui peuvent persister, il y a des douleurs qui peuvent persister, des crampes, etc. Donc on va vraiment essayer de mettre son corps au repos pendant un petit moment pour justement essayer de calmer tout ça.
Tu disais qu'il y avait des personnes qui le vivaient bien comme d'autres qui le vivaient mal. Mm-hmm. Pourquoi certaines personnes, elles ressentent un rejet carrément du toucher, de la pénétration en elle-même suite à cet événement? Bon, ça paraît entre guillemets plus ou moins logique, mais plus en détail par toi, ce sera peut-être plus explicite.
Effectivement, c'est assez logique dans l'univers commun de se dire si elle n'a pas envie d'être touchée, c'est que forcément elle n'a pas envie de se remettre non plus en danger. Mais c'est exactement ça. C'est finalement, on a une prise de risque qui souvent est très involontaire. Aujourd'hui, on se retrouve avec quelque chose qu'on n'avait clairement pas envie de gérer. On sait les impacts que ça a et finalement, c'est des piqûres de rappel qu'on n'a pas envie de se prendre. Et aujourd'hui, on se dit, finalement, si je recouche avec quelqu'un, est-ce que ça va bien se passer? Parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier, on a tendance à se dire, si elle est tombée enceinte, c'est qu'elle ne faisait pas gaffe ou qu'elle ne prenait pas de contraception, nanana. C'est vraiment pas ça. Il y a des femmes qui tombent enceintes sous pilule, on voit des bébés qui sortent avec le stérilet dans la main. Ça veut bien dire que ce n'est pas efficace à 100%. Il y a des accidents, il y a des fautes de parcours et ce n'est pas à la femme d'être coupable de ça, malheureusement.
Comment on peut reconnaître les signaux de son corps par rapport à cette situation sans le brusquer?
Ça va être vraiment de s'écouter, de se dire finalement quelle douleur j'ai, comment je me sens. Ça peut être même au niveau digestif. On voit souvent que les femmes qui ont au début d'une grossesse ont des symptômes digestifs comme des nausées, des vomissements, etc. C'est se mettre au repos, c'est vraiment essayer d'avoir avec son médecin quelques compléments, quelques vitamines, ce genre de choses pour essayer vraiment de rebooster un petit peu tout ça. Il faut pas oublier que ça nous a coûté beaucoup d'énergie, de fatigue et d'émotion, donc il va falloir forcément recharger un petit peu les batteries.
Quand tu veux, entre guillemets, réussir à te reconnecter à ton plaisir, à ton intimité, tu te sens prête, en l'occurrence, pour passer à la phase suivante. Est-ce qu'il y a des moyens corporels ou sensoriels qui peuvent accompagner cette reconnexion?
L'émotion. L'émotion et le toucher, c'est vraiment les deux facteurs qui vont être impératifs sur le départ, parce qu'on négocie pas la sexualité pour le moment. C'est-à-dire que c'est accessoire, mais on a le moment où on a envie d'être retouché, d'être réadmiré, nu, etc. C'est déjà un pas qui est énorme.
Est-ce que tu vois dans tes patientes, ou tu as déjà entendu ce type de situation, un changement, le rapport au plaisir, en fait, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il est plus intense, moins intense après une IVG, ou ça change en fait en fonction de la personne, comme beaucoup de choses?
C'est vraiment en fonction de la personne et dans l'état moral où elle se trouve aussi, c'est comment je vais. Et c'est souvent, on y va un petit peu à tâtons, on peut avoir même des reculons, hein, c'est-à-dire que on sait finalement ce que ça nous a coûté, donc y retourner, c'est encore voilà, une charge en plus. Et des fois, cette charge mentale du danger ne nous fiche pas la paix avant un petit moment. Donc c'est aussi à prendre en compte et c'est normal. C'est-à-dire que si on est une femme qui a eu un parcours IVG et qui se dit bah, « je réussis plus à avoir envie, ça se trouve, entre guillemets, j'ai cassé quelque chose avec ça », non, vous n'avez rien cassé du tout, c'est simplement que votre corps réagit de la meilleure des manières qui soit, c'est en vous protégeant.
On est bien d'accord que voilà, c'est pas un dysfonctionnement, c'est simplement une reprise sur soi. Et justement, cette idée de ne pas vouloir, enfin de ne pas avoir envie, de non-désir sexuel, est-ce qu'on peut se dire bah, déjà que c'est normal, déjà dans un premier temps? Est-ce qu'on doit le craindre? Est-ce qu'on doit l'apprivoiser? Est-ce qu'on s'adapte? Enfin, c'est normal dans un sens, mais je pense qu'on peut des fois avoir ce genre de sentiment qui peut arriver.
Mais c'est ça, c'est normaliser le non-désir en fait. Il est aussi important qu'avoir envie de faire l'amour. On doit respecter ce que les gens ont envie. Si on sent qu'on a une période où on n'a pas envie pendant 2 semaines, 3 mois, 6 mois, 1 an, il n'y a rien de grave en soi. C'est tant qu'on est en accord avec ça et qu'on se dit que pour l'instant on a envie de faire une pause entre guillemets là-dessus et qu'on n'a même pas envie du tout, bah, quel est le problème? Si nous ça nous va, c'est parfait.
Mais tu vois, des fois, dans l'entourage, il y a une sorte de pression sociale, voire carrément ben, un silence qui se crée et ça forme une sorte de culpabilité. Du coup, pourquoi il y a autant de personnes qui ressentent cette forme de culpabilité sexuelle après une IVG ?
Ben, que ce soit pour une IVG, que ce soit un post-accouchement, que ce soit pour un couple marié, finalement, il y a cette idée générale qu'on a un espèce de devoir conjugal, que ce soit autant pour l'homme que pour la femme, hein. C'est, voilà, bon, bah, post-accouchement, bah, on doit être un couple qui va très bien, qui est heureux. Donc, si on est heureux, il faut qu'on fasse l'amour. Si on a eu, par exemple, une IVG, bon, on a eu le champ opératoire, entre guillemets, ou médical, qui s'est fait. On a eu notre période de deuil. Donc, après ça, il faut y retourner. Mais non, pas du tout. On nous lâche les bottes. C'est un petit peu, effectivement, ces jugements de valeur qu'on a dans notre société de... Pour qu'un couple aille bien ou pour qu'une personne aille bien, sa vie sexuelle doit être très remplie, voire trop remplie.
Bah, tu vois, tout à l'heure, on parlait beaucoup d'impact physique et hormonal. Ouais, attends, hormonaux, pardon. mais il n'y a pas que cette partie-là, on l'a un peu teasé. Il y a aussi tout ce qui est émotionnel, mental, charge mentale. Je pense, et j'en déduis, qu'il y a aussi une mémoire émotionnelle qui se projette sur le corps.
Oui. C'est ça, ça va être... en fait, ton cerveau, lui, va tout enregistrer pour te mettre en sécurité le plus rapidement possible. Donc ça va être soit éteindre ton désir, soit faire que tu n'aies aucune érection, parce qu'on parle aussi des IVG chez la femme, mais il y a aussi une répercussion chez l'homme. C'est-à-dire que, admettons que, voilà, avec sa compagne, tout va bien, mais c'est pas le moment pour eux d'avoir un enfant, ils ont décidé, voilà, qu'ils allaient mettre fin à cette grossesse. L'homme aussi peut avoir vraiment une réponse érectile qui ne se fera plus parce qu'on ne va pas se remettre en danger. Donc finalement, le cerveau va couper l'information, va créer vraiment une panne, comme on appelle ça, pour ne pas remettre la situation sur le tapis. Donc c'est vraiment tout est fait pour t'éloigner du sujet et te mettre entre guillemets de côté pour le moment.
On est bien d'accord voilà, qu'il y a un impact sur la femme, mais aussi sur l'homme finalement, quand ils sont en couple par rapport à ce genre de sujet. Est-ce que... Il y a des injonctions sociales qui viennent encore peser sur le fait de devenir mère après une IVG. Ça va dans la trame, mais je sais que ça a été une question qui a été posée.
Alors ça, c'est un sujet, je pense qu'il nous faudrait un podcast de 50 heures pour essayer de... Ouais. Mais effectivement, c'est de toute façon, l'IVG, entre guillemets, personne n'est forcément d'accord sur ce sujet, c'est un énorme. Et c'est simplement remettre un peu l'église au milieu du village, se dire, est-ce que moi, j'ai envie de le faire? Est-ce que avec mon conjoint, s'il y en a un, on est d'accord ensemble? Si on ne l'est pas, on en discute. Le droit, entre guillemets, reste à la mère. Et c'est, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Et surtout, quels sont les droits en France? Tant qu'on s'en réfère aux droits en France, il n'y a pas de sujet.
Le reste suit. Tu parlais tout à l'heure de faire un deuil de cette situation quand il y a besoin de le faire. Comment on peut l'accueillir?
Le deuil de tout ça, de cette grossesse, il y a des personnes, et c'est ça souvent qui est mal compris, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont procéder à un avortement et qui pourtant ont des désirs d'enfant. Et on se dit, mais c'est pas du tout cohérent, enfin, je comprends pas la démarche. Au contraire, c'est juste qu'une personne réfléchit en se disant que pour le moment, il n'y a pas soit les moyens financiers, soit le temps, enfin bref, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte et ce n'est pas le bon moment pour eux. Ils ne se sentent pas prêts à avoir cette charge, parce que pour moi, un enfant, malgré que pour bon nombre de personnes, il y a quand même une charge qui est importante dans le couple, qu'on le veuille ou non, et même sur sa vie personnelle. Donc, c'est des personnes qui réfléchissent d'une certaine manière, qui se disent « bon, là, je ne suis pas prête, donc j'arrête cette grossesse ». Ça n'empêche pas qu'on aura envie plus tard. Et ça soulève encore des questions. Je trouve que c'est un acte courageux aussi de le faire, en se posant des questions, en se disant, bon bah voilà, on a fait ça, on a fait ce choix, et les autres autour doivent le respecter. On n'a pas dit qu'ils devaient le comprendre, mais ils le respectent. C'est-à-dire que c'est chacun fait comme il veut, et il ne doit pas interférer à la liberté de l'autre.
Mais comment tu veux l'exprimer sans te sentir jugé? Parce que c'est souvent ça, on a tendance à avoir une espèce d'épée de Damoclès avec la pression sociale qu'on a des fois par rapport à cette situation.
Le fait de ne pas être jugé, c'est simplement par cette petite phrase. Par exemple, on serait deux copines voilà, au café et on parlerait de ça. On va dire que j'ai subi une IVG, tu ne la comprends pas. Je te répondrai, tu n'as le droit de pas la comprendre. C'est pas, je ne te l'impose pas, je ne te demande pas d'aller le faire non plus.
Si... Oui, c'est ça, juste être dans l'écoute déjà dans un premier temps.
Oui, c'est ça. C'est chacun ses limites, chacun ses visions des choses et c'est très bien comme ça.
Est-ce que tu trouves que il y a un manque d'espace de soutien post-IVG pour pouvoir s'exprimer sur ça ?
Non, il y en a de plus en plus, mais il y en a encore pas assez, ça c'est clair. C'est-à-dire que le suivi de l'IVG va être très médicalisé, mais sur le suivi psychologique, on n'est pas égal partout. C'est-à-dire que dans des grandes villes, on va pouvoir avoir tendance quand même à avoir des antennes, des choses. Quand tu passes dans des petites régions françaises où il n'y a pas forcément déjà de médecins dans le village,
dans le patelin, ouais.
Voilà, où tu es obligé aussi d'aller faire ton IVG à 100 bornes parce qu'il n'y a pas de maternité ou autre aux alentours, finalement, ça réduit aussi ton suivi derrière.
Est-ce que tu trouves qu'il y a plus de tabous autour de l'IVG ou celui de la maternité en elle-même ?
Oh.
Ou c'est kiff-kiff.
Je dirais que la maternité, c'est quand même quelque chose qui est plutôt positif, même si on n'y adhère pas. C'est ça un petit peu le sujet, c'est que finalement, que tu aies fait le choix d'être mère, c'est quelque chose voilà, où moi, je n'aurai pas d'enfant, mais en même temps, tu fais ce que tu veux. Mais on n'applique pas cette même règle pour l'IVG. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va rentrer en compte. Ça va être tout ce qui va être normes sociales du pays. Ça va être les lois, ça va être les religions. Ça va être tout ça qui va faire finalement qu'on rajoute un deuxième avis finalement sur tout ça.
On va essayer de se caler sur aussi un petit peu comment se redéfinir dans son plaisir, dans son intimité. Comment on peut relancer la machine quand on se sent prête pour reprendre une vie sexuelle, tout simplement?
Comme on disait tout à l'heure, ça va passer par s'écouter, redéfinir un petit peu ce qu'on a envie. Si on n'a pas envie, par exemple, de pénétration pour les premiers moments, on s'en fout, on fait sans. C'est vraiment s'écouter et se dire, et en fait, les seules limites et les seuls cadres que je mets, c'est ce que j'ai envie, le consentement et la légalité. Le reste, c'est à vous de voir.
Est-ce qu'il y a des étapes, entre guillemets, qu'on peut faire step by step pour reprendre doucement post-IVG, sans pression, dans les toutes premières fois? Est-ce qu'il y a des recommandations?
Pas vraiment, parce qu'en fait, ça va être très unique à chacun. C'est vraiment, des fois, il y en a qui préfèrent, entre guillemets, sauter tête bêche et ça leur va très bien comme ça, où ils retrouvent tout de suite une sexualité très épanouie, très vivante. Et d'autres personnes où ils vont préférer beaucoup de tendresse, beaucoup de compréhension, d'écoute, avant de pouvoir passer à un autre sujet.
Quand tu veux te réapproprier un petit peu tout ton corps, que ce soit seul ou avec ton ou ta partenaire, est-ce qu'on peut peut-être donner 2-3 tips en termes de pratiques sensuelles, corporelles, tranquillou, tout simplement?
Ça va être, moi j'aime bien j'en avais déjà parlé il me semble, mais c'était ce massage un peu détourné, où on laisse des zones accessibles, celles qu'on ne veut pas être touchées, on met un vêtement dessus, et ce vêtement, il peut changer, c'est-à-dire qu'on peut mettre un pull à manches longues, et puis après se dire, je mets un t-shirt ou un débardeur, ou un crop top. On va en fait élargir la zone où on va pouvoir être touché. Ça permet de pouvoir être touché, que le conjoint retouche le corps où il n'a pas eu accès depuis un moment, et se dire, on explore, on voit ce que ça me fait, et je reste dans les émotions et dans le ressenti.
Est-ce que ça, on peut dire que ça permet une sorte de lancement de process de guérison, au fur et à mesure, pour pouvoir se réapproprier, se réadapter à soi?
De réappropriation, ouais, je pense. De guérir, peut-être pas. Je pense que c'est pas suffisant.
Maintenant, on va écouter Chacun fait de Chagrin d'amour. On se retrouve dans quelques minutes.
5h du mat, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex, c'est bouteille vide. Je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Claque, fais le verre en tombant sur le lino. Je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent. L'alcool s'agrippe et ça commence.
Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait?
Casse-toi.
Chacun fait, ce qui lui plaît,
Précipice est au bout.
Précipice, on s'en fout. Chacun fait, ce qui lui plaît, Toutes ces étoiles qui brillent.
Qu'est-ce qu'elles ont à me dire, les étoiles?
6h du mat', faut que je trouve à boire. Liqueur forte ou café noir. Je brûle un peu rouge, police patrouille. Je serre les fesses, y'a rien qui presse. 4, 5, ma rose, crie le petit chose dans le matin rouge, car mon nom dit sous ses gontilles.
Et qu'est-ce que t'as?
Tout près d'une poste, y'a un petit bar. Je pousse la porte et je viens m'asseoir. 3, 4 patibulaires, tape le carton dans les water. Toute seule au bar, dans un coin noir, une blonde platine, sirote sa finale.
Champagne,
je l'accompagne, elle dit
50.
Je lui dis ça me tente.
Et vous êtes rentré comment?
À la prochaine, je t'en ai une.
Chacun
que de pression dans les bars.
Personne ne pousse à moi. Chacun fait, ce qui lui plaît.
Les gens de ces manies.
Les décalcomanies.
7h du mat, l'hôtel. Je paie, j'abrège, je fouille mes poches. Je sais c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge. Elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les banilons qui filent sous les redons. Ses ongles m'accrochent, tu viens chérie. Le lit qui craque et les volets claquent. Seule sur le lit dans ses draps bleus froissés. Sur sa peau lisse, mes doigts glacés. Elle prend la pause, pense à autre chose. Ses yeux miroirs envoient mon regard. Des anges pressés dans ce bleu glacé. Ils me disent c'est l'heure, je leur dis quelle heure.
Et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé?
Non.
Chacun fait, ce qui lui plaît,
sous mes pieds, il y a la terre.
Sous tes pieds, il y a la terre. Chacun fait, ce qui lui plaît.
Mon Dieu, je peux même pas jouir.
Tant pis pour toi, il faut dormir. Alors je me sauve dans le matin gris. C'est un cajou et pas de taxi. Les chats qui se tapent leurs petits ronrons. Les éminences, les petits bateaux. Bon, là je perds, je me sens pas belle. Mes bigoudis sont plus en plus. Dans mon studio, j'aspirateur. Ma vidéo me fait un peu peur.
Madame Pipi a des ennuis. Monsieur Papa se fait des tracas. Dans les logis, des maladies. Pépé vomit, ça brouille.
8h du mat, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit de mes draps froissés. C'est l'insomnie, ça m'est cassé. Je perds la tête de mes cigarettes. Sont toutes fumées dans le cendrier. C'est un Kleenex, c'est de bouteilles vides. Je suis toute seule, toute seule, toute seule.
RCN, Sexploration, Lucille Bec.
Précédemment, tu m'expliquais comment on pouvait redéfinir notre sexualité après une IVG sans culpabiliser. Mais quand on a besoin d'un temps off, qu'on n'a pas envie, comment on va l'exprimer à son sa partenaire?
C'est la compréhension du parcours. C'est en fait, plus tu intègres ton partenaire dans ton parcours, plus il est sensible, plus il va s'y intéresser et il va aller dans la compréhension. Quand je parle de ça, c'est évidemment, il y a toujours des cas, entre guillemets, désespérés qui ne comprendront pas, etc. Mais la plupart du temps, quand un couple fonctionne et qu'on a une intelligence dans les deux cas, la compréhension, c'est ce qui va faire tout le boulot finalement. Et il va de lui-même finalement se rendre compte des choses. Mmh. Il va se dire, oui, bon, là, il n'y a pas trop à négocier, quoi.
Est-ce que le partenaire, justement, enfin la partenaire, peut mal vivre ce changement sexuel?
Il peut le mal vivre, hein, c'est son droit, mais il doit aussi écouter et comprendre. Et souvent, quand on a quelque chose justement où on le vit mal, c'est pas la sexualité finalement qui manque, c'est l'intimité du couple, ça va être cette sensualité. Donc c'est aussi à remettre ça en place en disant « mais qu'est-ce qui est désiré quand tu me dis « tu me fais plus l'amour » C'est quoi? C'est la pénétration? C'est les moments complices qu'on partageait, qu'on ne partage plus avant? Et cette question, elle permet de désarçonner un petit peu et de se dire, ah ben oui, finalement, c'est, quand je dis ça, c'est pas ce que je veux dire.
Ouais, ça, respecter simplement son choix, ses décisions par rapport à ça et pouvoir en discuter calmement et surtout explicitement.
Bien sûr.
Ça sera beaucoup plus simple. Que dit l'autre, que dire quand l'autre ne comprend pas ce qu'on traverse? Parce que là, il y a des fois, il y en a où c'est des blocus, comme tu disais, et c'est des désespérés, malheureusement.
Alors, il y a l'information à avoir, c'est-à-dire aller finalement voir son professionnel de santé, c'est-à-dire que même si c'est pas nous qui avons avorté, on a le droit d'aller chez son médecin et de lui expliquer ça. On a le droit d'aller chez sa psy et lui expliquer ce qu'on vient de traverser pour se faire accompagner. D'essayer de comprendre, essayer de se mettre à sa place, ça va être très difficile parce qu'on n'est pas à sa place. Mais essayer au moins d'avoir un mouvement de compréhension, c'est déjà énorme.
Comment on peut reconstruire une intimité à deux après un long moment d'éloignement sexuel?
Ça déjà, c'est une période d'éloignement. Au moins un couple va le vivre au moins une fois dans sa vie. Et c'est simplement s'en rendre compte, ne pas se culpabiliser l'un et l'autre. C'est-à-dire que c'est pas on essaie de se rejeter la faute en disant « mais toi tu fais jamais ça, toi t'es jamais dispo ». On met ça de côté et c'est finalement qu'est-ce qu'on a envie. On a fait un peu le topo, on s'est rendu compte de ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire?
Et quand tu veux réaborder le sujet de la contraception ou d'autres manières, entre guillemets, soit tu décides que tu veux ou tu ne veux plus de bébé par la suite, ça c'est encore un autre sujet, soit tu abordes le sujet de la contraception mais que tu ne veux pas raviver un trauma, une peur, comment tu fais pour aborder à la personne en face?
Ça va être de la manière la plus douce. Si on se sent pas forcément capable, qu'on n'a pas les bons mots ou l'expertise, tout simplement sur tout ça, on va voir son médecin encore une fois et on essaie de faire un petit peu le bilan de ce qui est possible à mettre en place de façon très technique. Et après, ça va être en douceur réaccepter tout ça avec sa psychologue, avec tout professionnel de santé avec qui on se sent à l'aise pour parler de tout ça.
Ouais, rester dans un terrain d'écoute et puis surtout soutien mutuel, tout simplement. Hein, oui. J'ai envie de dire. On va un petit peu bifurquer sur, sur la partie sociétale, parce qu'il y a eu pas mal de petits mouvements ces derniers temps. Voilà. On va sortir un peu de tout ça, des infos. Déjà, j'aimerais bien savoir ton avis sur pourquoi l'impact sexuel d'une IVG, elle est si peu évoquée dans les parcours médicaux.
Parce que c'est un tabou complet. Déjà, l'IVG, on est très divisé sur le sujet, ne serait-ce qu'en France. Donc, rajoute en plus de ça une sexualité là-dessus. On voit bien que souvent, j'invite tout le monde à prendre un post au hasard sur Facebook qui parle de l'IVG. Et là, ça scinde en deux clans, hein. C'est pro ou anti. Et là, on va tomber pour moi, du ridicule, où on évoque des choses où il n'y a pas de fait scientifique, il n'y a pas de fait probant dans ce qui est dit. Mais c'est la foire au tout et n'importe quoi, la culpabilisation, waouh.
De ouf. Mais comment tu dirais à des professionnels que pour mieux inclure cette sexualité, dans l'accompagnement post-IVG notamment?
Ça va être là pour le coup nos tafs de sexologue. C'est-à-dire que le médecin souvent n'a pas le temps. C'est vraiment pas une volonté qui n'est pas là du médecin, parce que vraiment il y a des très très bons médecins qui ont envie d'accompagner jusqu'au bout, mais qui n'ont pas la possibilité parce qu'ils ont 60 patients par jour. C'est aujourd'hui se dire qu'on doit être tous encore dans un travail commun et passer le relais à un moment donné quand on ne peut pas ou qu'on n'a pas le temps.
Est-ce que tu trouves qu'il y a assez de récits, de textes, de documentation sur ce sujet?
Il y en a beaucoup. Je dirais qu'il y en a même des fois trop parce que finalement, tu peux te perdre un petit peu. Parce que selon la vision de la personne qui a écrit ou qui a parlé, forcément, tu peux être en accord ou pas en accord, hein, comme le podcast qu'on est en train de faire également. Mais c'est simplement se dire, il faut que je m'en relate aux faits véridiques, c'est-à-dire faits scientifiques et faits vraiment de personnes qui connaissent le sujet. Donc de médecins, de colloques de médecins, de gens qui connaissent réellement le sujet.
Et partons un peu sur les médias notamment. Est-ce que dans les médias plus spécifiquement féminins, est-ce que tu trouves qu'ils en parlent assez ou c'est encore trop tabou?
Alors on en parle, mais c'est toujours parti pris. C'est-à-dire que, aujourd'hui, ça c'est mon avis personnel, mais je trouve que plus aucun média de toute façon n'est neutre. On a souvent, on entend très bien de quel bord politique peut être un média maintenant. Donc forcément, la réponse va être en conséquence. Et on demande des fois, certaines fois, des chroniqueurs, etc., de pas forcément dire ce qu'ils ont envie de manière sincère, mais plutôt de dire ce qu'il faut dire.
Parce que pour moi, je trouve que la plupart des textes sont souvent très médicalisés, voire un petit côté un peu culpabilisant, tu vois.
Oui, bah franchement, ça peut être le cas sur certains textes. Hein.
Je voulais voir aussi avec toi en quoi l'inclusivité des vécus, que ce soit des personnes avec, malheureusement, qui ont été, comment je pourrais dire ça, soumis à du racisme, à des problématiques sur leur orientation sexuelle, etc., elle est cruciale ici.
Alors, ça, c'est quelque chose qui mérite vraiment une vraie compréhension. C'est-à-dire que j'invite les gens à justement lâcher les écrans deux minutes, que ce soit Instagram ou Facebook, de mettre ça de côté et d'aller rencontrer vraiment, mais eux-mêmes, des gens qui ne sont pas de la même religion, qui ne sont pas du même bord politique, qui ne sont pas du même avis sur l'IVG, ou bref, qui vraiment pourraient se tirer dans les pattes finalement sur les réseaux, mais rencontrez-vous vraiment. Et vous verrez que finalement, l'image que vous faites de quelqu'un à travers un profil ou un texte, parce que des fois en plus on écrit avec ses émotions, etc., donc on n'est pas toujours dans le juste ou quelque chose de, voilà, de cohérent. Mais finalement, rencontrez-vous et il y a un vrai échange et vous verrez que vous ferez vraiment tomber vos idées préconçues.
Dernièrement, il y a une loi qui est passée, qui a été retirée, devrais-je dire plutôt, qui a été retirée, la fameuse loi du 18 juillet 2025. C'est tout récent. Cette clause, en fait, elle a été supprimée par la loi. C'était la clause de conscience spécifique à l'IVG. Mmh. Voilà, elle a été supprimée. Bon, pour le petit rappel, grosso modo, les médecins pouvaient refuser de pratiquer un IVG en invoquant cette clause. Il y a toujours la clause médicale générale, ça bouge pas. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, elle a été supprimée. Est-ce que ça ouvre un tournant dans la façon dont les soignants considèrent les droits reproductifs et la parole des patientes?
C'est déjà, j'ai envie de dire, un petit chemin, mais il faut toujours être méfiant. C'est-à-dire que effectivement, c'est pas parce que quelque chose a été inscrit dans la Constitution, etc., que rien ne pourra plus bouger. On l'a bien vu par notre histoire, que ce soit française ou de guerre, etc. Tout est sujet à mouvement. Faut jamais prendre un droit comme acquis. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Jamais prendre un droit pour acquis. Là, c'est quand même un pas qui est fait dans notre génération. Et ça ne peut pas être ignoré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, se dire que finalement, on va aller chez son praticien et peu importe ce que lui pense, il doit rester dans son rôle de médecin et nous porter assistance, c'est quand même quelque chose qui est une bonne avancée pour moi.
En tout cas, Chloé, je te remercie pour cette mise en lumière sur ce sujet très intéressant, très enrichissant. Le prochain sujet est à découvrir sur Instagram, sexploration.lustile.bac. Si ça t'a plu, si cet épisode t'a fait vibrer, partage-le, note-le, parle-en. On se retrouve chaque jeudi pour casser la routine avec Sexploration. Bisous, bisous.
Bisous.